Chapitre 5. Attente. La fin de l'automne s'écoula, et tout l'hiver, et le printemps encore, et le début de l'été. Lord Mortimer vit les quatre saisons passer sur Paris, la boue s'amasser dans les rues étroites, puis la neige blanchir les prés de Saint-Germain, puis les bourgeons s'ouvrir aux arbres des berges de Seine, et le soleil briller sur la tour carrée du Louvre, sur la ronde tour de Nesle, sur la flèche aiguë de la Sainte-Chapelle. Un émigré attend. C'est son rôle, et presque, croirait-on, sa fonction. Il attend que le mauvais sort passe. Il attend que les gens, dans le pays où il a pris refuge, aient fini de régler leurs propres affaires. Passer les moments de l'arrivée où ses revers suscitent la curiosité, où chacun veut s'emparer de lui comme d'un animal de montre, sa présence bientôt devient lassante. Il semble toujours porteur d'un reproche muet, mais on ne saurait s'occuper de lui à chaque instant. Il est le demandeur, il peut bien patienter après tout. Donc, Roger Mortimer attendait, comme il avait attendu 2 mois en Picardie chez son cousin Jean de Fienne, que la cour de France fût rentrée à Paris, comme il avait attendu que Monseigneur de Valois trouvât parmi toutes ses tâches l'heure de le recevoir. Il attendait maintenant une guerre de Guyenne qui, seule, pouvait changer son destin. Oh, Monseigneur de Valois n'avait pas lanterné à donner les ordres. Les officiers du roi de France, ainsi que Robert l'avait conseillé, avaient bien entrepris à Saint-Sardos, sur les dépendances litigieuses de la seigneurie de Sarlat, les fondations d'une forteresse. Mais une forteresse ne s'élève pas en 1 jour, ni même en 3 mois, et les gens du roi d'Angleterre n'avaient pas paru, du moins au début, s'émouvoir outre mesure. Aucun incident ne s'était encore produit. Roger Mortimer profitait de ses loisirs pour parcourir cette capitale qu'il n'avait qu'entrevue au cours d'un bref voyage et pour découvrir le grand peuple de France qu'il connaissait bien mal. Quelle nation puissante, nombreuse et combien différente de l'Angleterre. On se croyait semblable de part et d'autre de la mer parce que dans les deux pays, les noblesses étaient de même souche. Mais que de disparités à considérer les choses de plus près. Toute la population du royaume d'Angleterre, avec ses 2 millions d'âmes, n'atteignait pas le 1/10 du total des sujets du roi de France. C'était à près de 22 millions qu'il fallait évaluer le nombre des Français. Paris, à soi seul, comptait 300 000 âmes, quand Londres n'en avait que 40 000. Et quel grouillement dans ces rues, quelle activité de négoce et d'industrie, quelles dépenses! Il suffisait pour s'en convaincre de se promener sur le pont au change ou le long du quai des Orfèvres et d'écouter bruire dans le fond des boutiques tous les petits marteaux à battre l'or, de traverser, en se pinçant un peu le nez, le quartier de la Grande Boucherie derrière le Châtelet où travaillaient les tripiers et les écorcheurs, de suivre la rue Saint-Denis où se tenaient les merciers, d'aller tâter les étoffes sous les grandes halles aux drapiers. Dans la rue des Lombards, plus silencieuse et que maintenant Lord Mortimer connaissait bien, se traitaient les grandes affaires. Près de 350 corporations et maîtrises réglaient la vie de tous ces métiers. Chacune avait ses lois, ses coutumes, ses fêtes, et il n'était pratiquement pas 2 jours de l'année où, après messe entendue et discussion en parloir, un grand banquet n'unit maîtres et compagnons. Tantôt les chapeliers, tantôt les fabricants de cierges, tantôt les tanneurs. Sur la montagne Sainte-Geneviève, tout un peuple de clercs, de docteurs en bonnet, disputait en latin, et les échos de leurs controverses sur l'apologétique ou les principes d'Aristote allaient ensemencer d'autres débats dans la chrétienté entière. Les grands barons, les grands prélats et beaucoup de rois étrangers avaient en ville une demeure où ils tenaient une sorte de cour. La noblesse hantait les rues de la cité, la galerie mercière du palais royal, les abords des hôtels de Valois, de Navarre, d'Artois, de Bourgogne, de Savoie. Chacun de ces hôtels était comme le siège d'une représentation permanente des grands fiefs. Les intérêts de chaque province s'y concentraient. Et la ville croissait sans cesse, poussant ses faubourgs sur les jardins et les champs, hors des murs d'enceinte de Philippe Auguste qui commençaient à disparaître, noyés dans les constructions nouvelles. Si l'on poussait un peu hors de Paris, on voyait que les campagnes étaient prospères. De simples porchers, des bouviers, possédaient fréquemment une vigne ou un champ en propre. les femmes employées aux travaux de la terre ou à d'autres métiers ne travaillaient jamais le samedi après-midi qui pourtant leur était payé. D'ailleurs, en tout lieu, on quittait le travail le samedi au troisième coup de vêpres. Les fêtes religieuses, nombreuses, étaient chômées, tout comme les fêtes de corporation. Et pourtant, ces gens-là se plaignaient. Or, quels étaient leurs principaux sujets de doléances ? Les tailles, les impôts, assurément, comme en tout temps et en tout pays, mais le fait aussi qu'ils eussent toujours au-dessus d'eux quelqu'un dont ils dépendaient. Ils avaient le sentiment de ne jamais vraiment disposer d'eux-mêmes, ni des fruits de leur effort. Ils demeuraient en France, malgré les ordonnances de Philippe V insuffisamment suivies, beaucoup plus de serfs proportionnellement qu'en Angleterre, où la plupart des paysans étaient des hommes libres, tenus d'ailleurs de s'équiper pour l'armée, et qui pouvaient faire entendre leur voix aux assemblées royales. Cela faisait mieux comprendre que le peuple d'Angleterre eût exigé des chartes de ses souverains. En revanche, la noblesse de France n'était point divisée comme celle d'Angleterre. Il s'y trouvait bien des ennemis jurés pour questions d'intérêts particuliers, tels Robert d'Artois et sa tante Mao. Il s'y formait des clans, des coteries, mais toute cette noblesse reprenait cohésion lorsqu'il s'agissait de ses intérêts généraux ou de la défense du royaume. L'idée de nation y était plus précise et plus forte. La seule vraie similitude en ce temps-là qui existait entre les deux pays tenait à la personne même de leur roi. À Londres comme à Paris, les couronnes étaient échues à des hommes faibles, ignorant ce souci véritable de la chose publique sans lequel un prince n'est prince que de nom. Mortimer avait été présenté au roi de France et l'avait revu à plusieurs reprises. Il n'avait pu se former une bien haute opinion de cet homme de 29 ans, que ses seigneurs appelaient Charles le Bel et son peuple Charles le Bio, mais qui, sous sa noble apparence, n'avait pas deux onces de cervelle. « Avez-vous trouvé un logis convenable, messire de Mortimer ? Votre épouse est-elle avec vous ? Oh, comme vous devez en être privé ! Combien d'enfants vous a-t-elle donné ?» C'était là à peu près toutes les paroles que le roi avait adressées à l'exilé. Et chaque fois, il lui redemandait « Votre épouse est-elle avec vous ? Combien d'enfants en avez-vous eu ?» ayant, entre deux entrevues, oublié la réponse. Ses préoccupations semblaient être seulement d'ordre domestique et conjugal. Son triste mariage avec Blanche de Bourgogne, et dont il gardait blessure, avait été dissous par une annulation où lui-même n'était pas apparu sous le meilleur jour. On l'avait aussitôt remarié à Marie de Luxembourg, jeune sœur du roi de Bohême, avec lequel Monseigneur de Valois, justement dans ce moment-là, voulait s'entendre au sujet du royaume d'Arles. Et voici qu'à présent, Marie de Luxembourg était enceinte, et Charles le Bel l'entourait d'attentions un peu sottes. L'incompétence du roi n'empêchait pas que la France s'occupât des affaires du monde entier. Le Conseil gouvernait au nom du roi, et Monseigneur de Valois au nom du Conseil. On donnait des avis à la papauté. Plusieurs chevaucheurs, qui touchaient 8 livres et quelques deniers par voyage, un vrai patrimoine, avaient pour unique service d'acheminer le courrier vers Avignon, et d'autres ainsi vers Naples, vers l'Aragon, vers l'Allemagne. Car on veillait beaucoup aux questions d'Allemagne, où Charles de Valois et son compère Jean de Luxembourg s'étaient entendus pour faire excommunier l'empereur Louis de Bavière, de telle sorte que la couronne du Saint-Empire pût être offerte à qui donc ? Mais à Monseigneur de Valois lui-même, qui s'entêtait en son vieux rêve. Chaque fois que le siège du Saint-Empire se trouvait vacant, Monseigneur de Valois se portait candidat. De quel prestige accru bénéficierait la croisade si son chef se trouvait élu empereur ? Mais il ne fallait pas négliger pour autant de surveiller la Flandre. Cette Flandre qui causait de permanents soucis à la couronne, selon que les populations s'y révoltaient contre leur comte parce que celui-ci se montrait fidèle au roi de France, ou bien que le comte lui-même se révoltait contre le roi pour satisfaire ses populations. Et puis enfin, on s'occupait de l'Angleterre, et Roger Mortimer était appelé chez Valois chaque fois qu'une question se posait à ce sujet. Mortimer avait loué logis près de l'hôtel de Robert d'Artois, dans la rue Saint-Germain-des-Prés et devant l'hôtel de Navarre. Gérard de Halspaille, qui le suivait depuis son évasion de la tour, commandait sa maison où le barbier Ogle tenait office de valet de chambre et qui se grossissait petit à petit de réfugiés obligés à l'exil eux aussi par la haine des Despenser. En particulier était arrivé John Maltraver, seigneur anglais du parti de Mortimer et descendant comme lui d'un compagnon du conquérant. Ce Maltraver avait la face longue et sombre, les cheveux pendants, les dents immenses. Il ressemblait à son cheval. Il n'était pas très agréable compagnon et faisait sursauter les gens par des rires saccadés, hennissants, dont on cherchait en vain les motifs. Mais dans l'exil, on ne choisit pas ses amis. L'infortune commune vous les impose. Par Maltraver, Mortimer apprit que sa femme avait été transférée au château de Skipton, dans le comté d'York, avec pour tout de suite une dame, un écuyer, une blanchisseuse, un valet et un page, et qu'elle recevait 13 shillings et 4 deniers par semaine pour son entretien et celui de ses gens, presque la prison. Quant à la reine Isabelle, son sort devenait de jour en jour plus pénible. Les Despenser la pillaient, la dépouillaient, l'humiliaient avec une patiente perfection dans la cruauté. « Il ne me reste plus en propre que la vie, » faisait-elle dire à Mortimer, « et je crains fort qu'on ne s'apprête à me l'ôter. Hâtez mon frère à ma défense. » « Mais le roi de France, votre épouse est-elle auprès de vous? Avez-vous des fils ?» s'en remettait aux avis de Monseigneur de Valois, qui lui-même remettait tout au résultat de ses actions d'Aquitaine. Et si d'ici là, les Despenser assassinaient la reine?
Ils n'oseront pas, répondait Valois.
Mortimer allait glaner d'autres nouvelles chez le banquier Ptolomée, qui lui faisait passer son courrier outre-Manche. Les Lombards avaient un meilleur réseau de postes que la cour, et leurs voyageurs étaient plus habiles à dissimuler les messages. Ainsi, la correspondance entre Mortimer et l'évêque Orleton était à peu près régulière. L'évêque avait payé cher d'avoir monté l'évasion de Mortimer, mais il était courageux et tenait tête au roi. Premier prélat d'Angleterre jamais traduit devant une juridiction laïque, il avait refusé de répondre à ses accusateurs, appuyé d'ailleurs par tous les archevêques du royaume qui voyaient leurs privilèges menacés. Édouard avait poursuivi le procès, fait condamner Orleton et ordonné la confiscation de ses biens. Édouard venait également d'écrire au pape pour demander la déposition de l'évêque comme rebelle. Il était important que Monseigneur de Valois agît auprès de Jean XXII pour empêcher une telle mesure, dont le résultat eût été de porter la tête d'Orleton sur le billot. Pour Henri Torcol, la situation était confuse. Édouard l'avait fait en mars comte de Lancastre, lui rendant les titres et les biens de son frère décapité, dont le grand château de Kenilworth. Puis, tout aussitôt, pour avoir eu connaissance d'une lettre d'encouragement et d'amitié adressée à Orleton, Édouard avait accusé Torcol de haute trahison. Ptolomée, à chaque visite que Mortimer lui rendait, ne manquait pas de dire à l'exilé « Puisque vous voyez souvent mes seigneurs de Valois et d'Artois et que vous êtes bien leurs amis, rappelez-leur, je vous prie, ces bouches à poudre qu'on a expérimentées en Italie et qui serviront beaucoup au siège des villes. Mon neveu à Sienne et les Bardi à Florence peuvent s'occuper de les fournir. Ce sont pièces d'artillerie plus faciles à mettre en place que les grosses catapultes à balancier et qui font plus de dégâts. Monseigneur de Valois devrait bien en équiper sa croisade. » Les femmes, dans le début, s'étaient assez intéressées à Mortimer, à cet étranger au beau torse, tout vêtu de noir, austère, et qui mordillait la cicatrice blanche qu'il avait à la lèvre. Elles lui avaient fait raconter 20 fois son évasion. Tandis qu'il parlait, de belles poitrines se soulevaient sous les transparentes gorgières de lin. Sa voix, qui était grave, presque rauque, avec un accent inattendu sur certains mots, touchait les cœurs oisifs. Robert d'Artois, à bien des reprises, avait voulu pousser le baron anglais dans ses bras qui ne demandaient qu'à s'ouvrir, comme il s'était offert aussi à lui procurer quelques folieuses, par paire ou par tercée, pour le distraire de ses soucis. Mais Mortimer n'avait cédé à aucune tentation, au point qu'on se demandait d'où lui venait cette rare vertu et s'il ne partageait pas les mœurs de son roi. On ne pouvait imaginer la vérité, à savoir que cet homme, le même qui avait parié son salut sur la mort d'un corbeau, avait misé son retour en fortune sur sa chasteté. Il s'était fait la promesse de ne pas toucher femme avant d'avoir retrouvé et la terre d'Angleterre, et ses titres, et sa puissance. Un vœu de chevalier, tel qu'aurait pu le prononcer un Lancelot, un Amadis, un compagnon du roi Arthur. Mais Roger Mortimer devait s'avouer, après tant de mois, qu'il avait choisi son vœu un peu légèrement, et ceci contribuait à lui assombrir l'humeur. Enfin, de satisfaisantes nouvelles arrivèrent d'Aquitaine. Le sénéchal du roi d'Angleterre, messire Basset, homme d'autant plus sourcilleux que son nom prêtait à rire, commença de s'inquiéter de la forteresse qui s'élevait à Saint-Sardos. Il y vit une usurpation des droits de son maître et une insulte à sa propre personne. Ayant réuni quelques troupes, il entra dans Saint-Sardos à l'improviste, mit la bourgade au pillage, appréhenda les officiers chargés de surveiller les travaux et les pendit aux poteaux fleurdelysés qui signalaient la suzeraineté du roi de France. Messire Ralph Basset n'était point seul dans cette expédition. Plusieurs seigneurs de la région lui avaient prêté la main. Robert d'Artois, le jour qu'il en fut informé, alla quérir aussitôt Mortimer et l'entraîna chez Charles de Valois. « Il débordait de joie et de fierté, monseigneur d'Artois. Il riait plus fort que de coutume et donnait à ses familiers d'amicales tapes qui les envoyaient rebondir contre les murs. Enfin l'on tenait l'occasion, née de son inventive cervelle. » L'affaire fut aussitôt évoquée au conseil étroit. On fit des représentations d'usage et les coupables du sac de Saint-Sardos se virent assignés devant le Parlement de Toulouse. Allaient-ils se présenter, reconnaître leur tort, faire soumission? On le craignait. Par chance, l'un d'entre eux, un seul, Raymond Bernard de Montpezat, refusa de se rendre à la convocation. Il n'en fallait pas davantage. On rendit un jugement par défaut, et Jean de Roy, qui avait succédé à Pierre-Hector de Galard comme grand maître des arbalétriers, fut envoyé en Guyenne avec petite escorte afin de se saisir du sire de Montpezat, de ses biens, et de présider au démantèlement de son château. Or, ce fut le sire de Montpezat qui l'emporta. Il retint prisonnier Jean de Roy et exigea rançon pour le rendre. Le roi Édouard n'était pour rien dans cet incident, mais son cas s'aggravait par la force des choses. Et Robert d'Artois exultait. Car un grand maître des arbalétriers n'est pas un homme qu'on séquestre sans qu'il s'en suive des conséquences graves. De nouvelles représentations furent adressées au roi d'Angleterre, directement cette fois, et assorties d'une menace de confiscation du duché. Au début d'avril, Paris vit arriver le comte de Kent, demi-frère du roi Édouard, secondé de l'archevêque de Dublin. Il venait proposer à Charles IV, pour régler leurs différends, de renoncer tout simplement à l'hommage d'Édouard. Mortimer, qui rencontra Kent à cette occasion, leurs rapports restèrent courtois bien que leur situation fût difficile, lui démontra l'inutilité totale de cette démarche. Le jeune comte de Kent en était d'ailleurs lui-même persuadé. Il s'acquittait de sa mission sans plaisir. Il repartit en emportant le refus du roi de France, transmis de méprisante manière par Charles de Valois. La guerre inventée par Robert d'Artois semblait sur le point d'éclater. Mais voici que dans le même temps, la nouvelle reine, Marie de Luxembourg, mourut brusquement à Issoudun, en accouchant avant terme d'un enfant qui n'était pas viable. On ne pouvait décemment déclarer la guerre pendant le deuil, d'autant que le roi Charles était vraiment très abattu et presque incapable de tenir conseil. Le sort le poursuivait décidément dans son destin d'époux, trompé d'abord, ensuite veuf. Il fallut que Valois, tout souci cessant, s'employât à découvrir une troisième épouse au roi, lequel s'inquiétait, devenait aigre et reprochait à chacun le manque d'héritiers où se trouvait le royaume. Lord Mortimer dut donc attendre qu'on ait réglé cette affaire. Monseigneur de Valois eut volontiers proposé une de ses dernières filles à marier, si les âges avaient pu s'assortir. Malheureusement, même l'aînée, celle qui avait été offerte naguère au prince héritier d'Angleterre, ne comptait pas 12 ans, et Charles le Bel n'était guère enclin à patienter. Restait une autre cousine germaine, fille celle-là de Monseigneur Louis d'Évreux, défunt à présent, et nièce de Robert d'Artois. Cette Jeanne d'Évreux n'avait guère d'éclat, mais était bien faite, et surtout, elle avait l'âge requis pour être mère. Monseigneur de Valois, plutôt que d'engager de longues et difficiles tractations au-delà des frontières, encouragea toute la cour à pousser Charles vers cette union. 3 mois après la mort de Marie de Luxembourg, une nouvelle dispense était demandée au pape. Le mariage eut lieu le 5 juillet. 4 jours plus tôt, Charles avait décidé la confiscation de l'Aquitaine et du Ponthieu pour révolte et défaut d'hommage. Le pape Jean XXII, comme il le jugeait de sa mission chaque fois qu'éclatait un conflit entre deux souverains, écrivit au roi Édouard, l'engageant à venir prêter l'hommage pour qu'un des points du litige au moins fût apaisé. Mais l'armée de France était déjà sur pied et se rassemblait à Orléans, tandis qu'une flotte s'équipait dans les ports pour attaquer les côtes anglaises. Parallèlement, le roi d'Angleterre avait ordonné quelques levées d'hommes en Aquitaine, et messire Ralph Basset réunissait ses bannières. Le comte de Kent revenait en France, mais par l'océan cette fois, et pour exercer dans le duché la lieutenance que lui avait commise son demi-frère. Allait-on partir ? Non. Car il eût fallu encore que Monseigneur de Valois courût à Bar-sur-Aube pour y conférer avec Léopold de Habsbourg au sujet de l'élection au Saint-Empire et conclure un traité par lequel Habsbourg s'engageait à ne point être candidat, moyennant somme d'argent, pensions et revenus dès à présent fixés, dans le cas où Valois serait élu empereur. Roger Mortimer attendait toujours. Enfin, le 1er août, par une chaleur écrasante où les chevaliers cuisaient comme en marmite sous leurs cuirasses, Charles de Valois, superbe, lourd, portant cimier à son casque et cotte brodée d'or par-dessus son armure, se fit élever en selle. Il avait à ses côtés son second fils, le comte d'Alençon, son neveu Philippe d'Evreux, nouveau beau-frère du roi, le connétable Gaucher de Châtillon, Lord Mortimer de Wigmore et enfin Robert d'Artois, qui, monté sur un cheval à sa taille, pouvait surveiller toute l'armée. Monseigneur de Valois, partant pour cette campagne, sa seconde campagne de Guyenne, qu'il avait voulu, décidé, fabriqué presque, était-il joyeux, heureux ou simplement satisfait ? Nullement. Il était d'humeur morose, parce que Charles IV avait refusé de signer sa commission de lieutenant général du roi en Aquitaine. Si quelqu'un vraiment avait droit à ce titre, n'était-ce pas Charles de Valois ? Et quel visage faisait-il alors que le comte de Kent, ce damoiseau, ce nourrisson, avait reçu, lui, la lieutenance du roi Édouard ? Le roi Charles le Bel, qui n'était capable de décider de rien, avait ainsi de brusques et bizarres obstinations à refuser ce qu'on lui demandait de plus évidemment nécessaire. Charles de Valois pestait ferme ce jour-là et ne cachait pas à ses voisins la petite opinion dans laquelle il tenait son neveu et souverain. En vérité, ce niais couronné, cet oison, valait-il qu'on se donnât tant de peine à gouverner pour lui son royaume ? Le vieux connétable Gaucher de Châtillon, qui commandait théoriquement l'armée, puisque Valois n'avait pas de commission officielle, plissait ses paupières de tortue sous son aume de forme démodée. Il était un peu sourd, mais, à 74 ans, faisait encore bonne figure en selle. Lord Mortimer avait acheté ses armes chez Ptolomei. Sous l'avant-bras levé de son casque, on voyait briller ses yeux aux reflets durs, de la même couleur que l'acier neuf. Comme il marchait, par la faute de son roi, contre son pays, il portait une cotte d'armes de velours noir, en signe de deuil. La date de ce départ, il ne l'oublierait pas. On était le 1er août 1324, fête de Saint-Pierre-Eslien, et il y avait un an, jour pour jour, qu'il s'était évadé de la Tour de Londres.